Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Deuxième partie. Petit c. Difficultés soulevées contre la réalité de cette idée et solution de ces difficultés. La première difficulté qui rend douteuse la possibilité de réaliser cette idée d'humanité agréable à Dieu en nous, étant donné la sainteté du législateur et les défauts de notre propre justice, est la suivante. La loi dit, ouverture de guillemets, « Soyez saints dans votre manière de vivre, comme est saint votre Père qui est aux cieux. » Fermeture de guillemets. Car tel est l'idéal du Fils de Dieu qui nous est donné pour modèle. Mais la distance entre le bien que nous devons réaliser en nous et le mal dont nous partons est infini, et comme tel à tout jamais infranchissable en ce qui concerne le fait, c'est-à-dire la conformité de notre conduite à la sainteté de la loi. Et cependant, le caractère moral de l'homme doit concorder avec cette sainteté. Il nous faut donc le faire consister dans l'intention, dans la maxime universelle et pure de la concordance de la conduite avec la loi. Germe dont tout bien doit sortir, intention qui provient d'un principe saint que l'homme a adopté pour maxime suprême. C'est une conversion qui doit être possible puisqu'elle est un devoir. Or, voici où réside la difficulté. Comment l'intention peut-elle suppléer au fait qui est toujours, non pas en général mais à chaque moment, défectueux? Et voici le moyen de la résoudre. Et étant donné que notre fait est un progrès continuel du bien défectueux au mieux, et que ce progrès va à l'infini, suivant notre façon d'apprécier les choses, à nous qui sommes inévitablement bornés à des conditions de temps, dans les concepts du rapport de cause et d'effet, ce fait reste toujours défectueux. De sorte qu'il nous faut toujours, dans le phénomène, c'est-à-dire suivant le fait, considérer le bien en nous comme insuffisant, relativement à une loi sainte. Mais nous pouvons penser que ce progrès à l'infini du bien vers la conformité avec la loi, à cause de l'intention d'où il dérive, qui est suprasensible, est regardé par celui qui sonde les cœurs dans son intuition intellectuelle pure, comme formant un tout complet, même quant au fait, quant à la conduite, et qu'ainsi, malgré sa permanente imperfection, l'homme peut pourtant espérer d'une manière générale d'être agréable à Dieu à quelque moment du temps que son existence soit interrompue. Note. Ne perdez pas de vue que ce qu'on veut dire par là, ce n'est pas que l'intention doit servir de compensation au manque de justice et par suite au mal effectif dans cette série infinie. Il est plutôt présupposé qu'on doit trouver en elle la manière d'être morale qui rend l'homme agréable à Dieu. Mais que l'intention qui remplace la totalité de cette série d'approximations continues se poursuivant à l'infini se borne à suppléer à l'imperfection inséparablement liée à l'existence de n'importe quel être dans le temps et qui fait qu'on ne peut jamais être complètement ce qu'on se propose de devenir. Quant à la compensation des transgressions commises au cours de ce progrès, il en sera parlé dans la solution de la troisième difficulté. Fin de la note, retour au texte. La deuxième difficulté se fait jour quand on considère l'âme s'efforçant vers le bien du point de vue de ce bien moral même et de sa relation à la bonté divine. Elle concerne la félicité morale, expression par laquelle il ne faut pas entendre l'assurance que l'on aura toujours des sujets de satisfaction dans son état physique, qu'on sera délivré des maux et que l'on jouira de plaisirs sans cesse croissants, ce qui serait le bonheur matérielle, mais l'assurance qui nous garantit la réalité et la persistance d'une intention toujours en progrès dans le bien et ne retombant jamais dans le mal, car chercher constamment le royaume de Dieu, pourvu que l'on eût la ferme assurance de l'immuabilité de cette intention, cela équivaudrait à se savoir déjà en possession de ce royaume, puisque, en effet, l'homme en qui vivrait de tels sentiments aurait déjà de lui-même la confiance que tout le reste, ce qui concerne le bonheur physique, lui sera donné par surcroît. On pourrait, il est vrai, renvoyer l'homme ainsi préoccupé et tourmenté d'un tel désir à ces paroles de l'apôtre, ouverture de guillemets, son esprit, il s'agit de Dieu, rend témoignage à notre esprit, fermeture de guillemets. En d'autres termes, celui qui possède une intention aussi pure qu'il est requis sentira déjà de lui-même qu'il ne peut jamais tomber assez bas pour se remettre à prendre goût au mal. Mais c'est une mauvaise affaire que de se fier à des sentiments prétendus d'origine surnaturelle. On ne s'illusionne jamais plus facilement que dans ce qui favorise la bonne opinion de soi-même. Il n'est même pas prudent, semble-t-il, qu'on soit porté à cette confiance. Et il semble au contraire préférable, pour la moralité, ouverture de guillemets, de travailler à son salut avec crainte et tremblement, fermeture de guillemets. Dure parole qui, mal comprise, peut pousser au plus sombre fanatisme. Et cependant, si l'on n'avait aucune confiance à l'intention une fois adoptée, il ne serait guère possible de persévérer sans relâche dans cette intention. Or, sans s'abandonner à aucun fanatisme, doucereux ou terrifiant, on trouve ce qu'il faut penser en comparant la conduite qu'on a tenue avec la résolution qu'on a prise. En effet, l'homme qui, depuis l'époque où il a adopté les principes du bien, a observé, pendant une vie assez longue, l'effet de ses principes sur ses actes, c'est-à-dire sur sa conduite, toujours en progrès vers le mieux, et trouve, dans ce fait, des motifs de conclure, ne fût-ce que par présomption, à une foncière amélioration de son intention, peut bien aussi raisonnablement espérer qu'il ne quittera plus dans cette vie terrestre la voie dans laquelle il s'est engagé, mais qu'il y marchera toujours, d'un pas plus courageux encore, et même que si, après cette vie, une autre s'ouvre devant lui, les circonstances étant devenues autres, il continuera cependant, selon toute apparence, guidé par le même principe, à suivre le même chemin et à se rapprocher toujours davantage du but inaccessible de la perfection. Parce que, d'après ce qu'il a observé en lui jusqu'ici, il peut tenir son intention pour foncièrement améliorer. Au contraire, celui qui, même après avoir souvent pris la résolution de s'attacher au bien, n'a jamais trouvé pourtant qu'il pût s'y tenir, est constamment retombé dans le mal, ou même a dû, dans le cours de sa vie, constater en lui-même une chute toujours plus grande, glissant du mal au pire, comme sur une pente, celui-là raisonnablement ne peut pas se donner l'espoir que s'il avait encore à vivre ici-bas plus longtemps, ou qu'il eût aussi devant lui une vie future en réserve, il réussirait à mieux faire, parce que, à ses indices, il doit juger que la corruption est enracinée dans son intention. Or, la première alternative met sous nos yeux un avenir qui s'étend à perte de vue, mais que nous désirons parce qu'il est heureux, tandis que la seconde nous présente une misère également sans fin. C'est-à-dire que, toutes les deux, nous découvrent au regard des hommes, d'après ce qu'ils peuvent juger, une éternité bienheureuse ou malheureuse, représentations qui sont assez puissantes l'une et l'autre pour exciter les uns à se tranquilliser et à s'affermir dans le bien et pour réveiller dans les autres les remords de conscience qui poussent à se libérer autant que possible du mal et qui par conséquent peuvent toutes les deux nous servir de mobile sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à supposer objectivement une éternité de bien ou de mal comme devant être le sort de l'homme et de convertir ses idées en propositions dogmatiques, prétendues, connaissances et assertions avec lesquelles la raison ne fait que dépasser les limites de sa portée. Note. Au nombre des questions qui, en admettant qu'on peut y répondre, ne comporterait que des solutions dont on ne pourrait faire aucun profit sérieux, et que pour ce motif on pourrait appeler des questions puériles, se trouve celle-ci. Les peines de l'enfer seront-elles finies ou doivent-elles être des peines éternelles? Si l'on enseignait qu'elles sont finies, pas mal de gens, on peut le craindre, comme tous ceux qui croient au purgatoire ou comme ce matelot des voyages de mort dirait « J'espère bien pouvoir les supporter ». Si l'on soutenait l'autre thèse et qu'on en fit un article de foi, on pourrait bien, malgré le dessein que l'on se propose, laisser la porte ouverte à l'espérance d'une complète impunité après la plus scélérate des vies. En effet, jusqu'à l'heure du tardif repentir, sur la fin de la vie, le prêtre auquel on demande conseil et dont on attend des consolations doit trouver, malgré tout, cruel et inhumain d'annoncer à un homme sa réprobation éternelle. Et, puisqu'il ne trouve point de milieu entre une pareille réprobation et l'absolution complète, punition éternelle ou point de punition, il doit lui faire espérer du pardon. C'est-à-dire lui promettre de le transformer en un tour de main, en un homme agréable à Dieu. Car alors, comme il n'est plus temps d'entrer dans la voie d'une bonne vie, des aveux repentants, des formules de foi et même des promesses de changer sa façon de vivre dans le cas où l'on se verrait accorder un plus long sursis, tout cela tient lieu de moyen. Cette conséquence est inévitable dès que l'on convertit en dogme l'éternité d'une destinée à venir conforme à la conduite que l'homme a tenue ici-bas, au lieu de se borner à exciter chacun de nous à se faire, d'après son état moral antérieur, une idée de son avenir et à conclure, par lui-même, l'un de l'autre, en qualité de conséquences naturellement à prévoir. Auquel cas, en effet, la durée à perte de vue de notre sujétion à la domination du mal aura pour nous un effet moral identique à celui que l'on peut atteindre de l'éternité déclarée du sort à venir. Nous poussera également à faire tout notre possible pour effacer, quant à ses effets, le passé par des réparations ou des compensations avant la fin de cette vie. Sans cependant comporter les désavantages du dogme de l'éternité, que d'ailleurs n'autorise ni la portée de la raison, ni l'interprétation de l'Écriture. Car une fois ce dogme proclamé, le méchant, au cours de sa vie, compte déjà d'avance sur ce pardon, facile à obtenir, ou, lorsqu'il est à ses derniers moments, croit avoir seulement à s'occuper des prétentions qu'a sur lui la justice céleste, qu'il satisfait à l'aide de simples paroles. Cependant que les droits des hommes sortent les mains vides de cette affaire et que personne ne recouvre son bien. C'est là l'issue tellement ordinaire de ces sortes d'expiations qu'un exemple du contraire est à peu près chose inouïe. Quant à craindre que sa raison, au moyen de la conscience, soit trop indulgente pour juger l'homme, c'est se tromper grandement, à mon sens. Car, par là même qu'elle est libre et doit se prononcer sur le compte de l'homme, la raison est incorruptible, et, à condition de lui dire, à l'heure de la mort, qu'il est au moins possible qu'il ait bientôt à paraître devant un juge, on peut se contenter d'abandonner un homme à ses propres réflexions, qui, selon toute vraisemblance, le jugeront avec la plus grande sévérité. Je veux encore ajouter deux remarques. L'apophthegme ordinaire, « tout est bien qui finit bien », peut s'appliquer sans doute à des cas moraux, mais seulement si l'on entend par la fin, qu'on appelle bonne, celle où l'homme devient véritablement un homme de bien. Mais à quoi veut-on reconnaître qu'on est devenu un homme de bien, puisque le seul moyen qu'on ait de le conclure est la bonne conduite subséquente, sans défaillance, pour laquelle manque le temps au terme de la vie. C'est plutôt au bonheur qu'on peut appliquer ce proverbe. Mais sous le rapport seulement du point de vue d'où l'homme considère sa vie, se plaçant non à ses débuts mais à son dernier terme, et reportant de là ses regards en arrière jusqu'à ses premières années. Les souffrances endurées ne laissent pas de souvenirs pénibles dès qu'on se voit à l'abri dans le port, mais plutôt une bonne humeur qui ne rend que plus savoureuse la jouissance du bonheur atteint, parce que plaisirs et peines, faisant partie de la sensibilité, sont contenus dans la série du temps avec laquelle ils disparaissent, et qu'au lieu de former un tout avec la jouissance du moment, ils sont chassés par celle-ci qui leur succède. Appliquer ce proverbe au jugement de la valeur morale de la vie entière d'un homme, c'est risquer de la proclamer bien à tort morale, quoiqu'elle ait eu, pour terme, une conduite toute bonne. En effet, le principe moral subjectif de l'intention, d'après lequel on doit juger sa vie, est de telle nature, en tant qu'objet suprasensible, que son existence ne saurait être divisible en fractions de temps, et qu'elle ne peut être conçue que comme unité absolue. Et cette intention, ne pouvant se conclure que des actes, envisagés comme ces phénomènes, on ne peut donc considérer la vie, pour en estimer la valeur, que comme unité dans le temps. En d'autres termes, comme un tout. Et alors il se peut que les reproches adressés à la première partie de la vie, antérieure à l'amélioration, crient aussi haut que l'approbation donnée à la dernière, et nuisent grandement à l'effet triomphant du « tout est bien qui finit bien ». Enfin, avec cette doctrine de la durée des châtiments dans un autre monde, est apparentée une autre doctrine, qui ne lui est pas identique, pour laquelle, ouverture de guillemets, il faut que tous les péchés soient remis ici-bas, fermeture de guillemets, que les comptes soient arrêtés définitivement au terme de la vie, sans que personne puisse avoir l'espoir de continuer là-haut, à se libérer de ses arriérés d'ici-bas. Or, cette théorie n'est pas plus fondée que la précédente à se présenter comme un dogme. Mais elle est seulement un principe fondamental par lequel la raison pratique se prescrit la règle d'emploi du concept qu'elle a du suprasensible, tout en avouant humblement sa totale ignorance de la nature objective de ce dernier. Autrement dit, elle signifie seulement que c'est uniquement de notre conduite passée que nous pouvons conclure si nous sommes ou non des hommes agréables à Dieu, et que notre conduite finissant avec cette vie, notre compte aussi doit s'arrêter là, compte dont le bilan à lui seul montrera si nous pouvons ou non nous tenir pour justifier. D'une manière générale, si, renonçant au principe constitutif de la connaissance, se rapportant à des objets suprasensibles, dont il faut avouer que la claire vue nous est impossible, nous limitions notre jugement au principe régulateur qui n'en concerne que l'emploi pratique possible. La sagesse humaine, à beaucoup d'égards, s'en trouverait mieux et l'on ne verrait pas un prétendu savoir concernant une chose qu'au fond l'on ignore totalement. Donner le jour à des subtilités dépourvues de tout fondement, mais qui demeurent assez longtemps brillantes, et qui finalement, un jour, tournent au détriment de la moralité. Fin de la note, retour au texte. Ainsi, la bonne et la pure intention de laquelle on a conscience et qu'on peut appeler un bon génie chargé de nous guider comporte aussi la confiance à sa persistance et à sa fermeté, bien que ce ne soit que médiatement. Et elle est le consolateur, le paraclet. Lorsque nos faux pas nous donnent des inquiétudes au sujet de sa persistance. Une certitude en cette matière n'est ni possible à l'homme, ni moralement avantageuse autant qu'il nous est permis d'en juger. En effet, et c'est une chose qu'il faut bien remarquer, nous ne pouvons pas fonder cette confiance sur une conscience immédiate de l'immutabilité de nos intentions, car nous ne pouvons pas les pénétrer, et c'est uniquement des effets qu'elles manifestent dans notre conduite que nous devons conclure à leur immutabilité. Or, cette conclusion, n'étant basée que sur des perceptions ou phénomènes de la bonne intention et de l'intention mauvaise, n'en fait jamais connaître avec certitude la force. Et elle est surtout en défaut quand on pense avoir amélioré son intention aux approches probables de la fin de sa vie, étant donné l'absence de pareilles preuves empiriques de la pureté de cette intention. Alors, en effet, nous ne pouvons plus fonder sur notre manière de vivre le jugement à rendre sur notre mérite moral. Et la désolation, que cependant la nature de l'homme dans l'obscurité qui affecte toutes les prévisions touchant les limites de cette vie, empêche déjà d'elle-même de se changer en désespoir farouche. La désolation, disons-nous, est la conséquence inévitable du jugement rationnel apporté sur notre état moral. La troisième difficulté, et la plus grande en apparence, celle qui, même après que l'homme est entré dans la bonne voie, ne le représente pas moins dans le jugement de toute sa vie comme réprouvable devant une justice divine, est la difficulté suivante. Peu importe que l'homme ait adopté une bonne intention et qu'il continue régulièrement à y conformer sa conduite, il a commencé par le mal, et c'est là une dette qu'il ne lui est plus possible d'éteindre. En supposant qu'après sa conversion, il ne fasse plus de dettes nouvelles. Cela ne l'autorise pas à croire qu'il s'est ainsi libéré des anciennes. Il ne peut pas non plus, dans la bonne conduite qu'il mène désormais, se procurer un excédent en faisant plus que ce qu'il est tenu de faire chaque fois, car il a toujours pour devoir de faire tout le bien qu'il peut. Or, cette dette originelle, ou en général antérieure à tout ce que jamais on peut faire de bien, nous n'entendions pas autre chose en parlant du mal radical. Voir première partie. Or, cette dette originelle, à en juger d'après notre droit naturel, ne peut pas non plus être acquittée par un autre, car ce n'est pas une obligation transmissible, comme l'est par exemple une dette d'argent, dont il est indifférent au créancier d'être remboursé par son débiteur en personne ou par quelqu'un d'autre. Car ce n'est pas une obligation transmissible que l'on peut faire endosser par un tiers, mais la plus personnelle de toutes les obligations, celle que l'homme a contractée par le péché et dont seul le coupable doit supporter le poids sans que l'innocent puisse s'en charger en son lieu et place, fût-il assez magnanime pour le vouloir. Enfin, le mal moral, la transgression de la loi morale, en tant que cette loi est un commandement divin, ou autrement dit le péché, implique, non pas tant à cause de l'infinité du suprême législateur, dont il blesse l'autorité, car nous n'entendons rien à un rapport transcendant de ce genre de l'homme avec l'être suprême, mais surtout un titre de mal dans l'intention et dans les maximes en général, où l'on verrait des principes universels, si on les comparait à des transgressions singulières, implique, dis-je, une infinité d'atteintes portées à la loi, et par suite une infinité de la faute, bien que devant un tribunal humain, qui se borne à considérer isolément le crime, par suite l'acte d'intention qui s'y rapporte, sans rechercher d'intention générale, les choses soient bien différentes. Et tout homme, ainsi, méritant une punition infinie, devrait s'attendre à être exclu du royaume de Dieu. La solution de cette difficulté repose sur ce qu'on va lire. Nous devons penser que la décision d'un juge qui sonde les cœurs est telle qu'il la tire de l'intention générale de l'accusé et non des phénomènes par où elle se manifeste, actions divergentes ou concordantes relativement à la loi. Or, on suppose ici dans l'homme une bonne intention qui a pris le dessus sur le mauvais principe, autrefois dominant chez lui. Et l'on se demande, cela étant, si la conséquence morale de l'intention première, le châtiment, ou en d'autres termes l'effet du déplaisir causé à Dieu par le sujet, peut se rapporter aussi à l'état où se trouve l'homme quand son intention s'est améliorée, et qu'il est déjà un objet de la complaisance divine. Ce qui est ici en question n'étant pas de savoir si, même avant la conversion, le châtiment dont est menacé le pécheur peut s'accorder avec la justice divine, ce dont nul en effet ne doute. Ce châtiment ne doit pas, dans cette recherche, être conçu comme subi par lui avant l'amélioration. Et il n'est pas admissible non plus de le placer après la conversion, au moment où l'homme est entré déjà dans une vie nouvelle, quand, moralement, il est un autre homme, et de l'envisager comme approprié à sa nouvelle qualité, d'homme agréable à Dieu. Et néanmoins, la justice suprême, qui ne peut pas laisser un coupable impuni, doit toujours être satisfaite. Puisque le châtiment ne peut donc, ni avant, ni après la conversion, être conforme à la sagesse divine, et que cependant, il est nécessaire, il faut le concevoir comme approprié à cette sagesse et comme exercé au moment de la conversion elle-même. Par conséquent, il nous faut voir si, dans ce dernier état, au moyen du concept d'une conversion morale, peuvent déjà être regardés comme inclus les mots que le nouvel homme, animé de bonnes intentions, peut considérer comme mérités avant sa régénération, et prendre pour des châtiments grâce auxquels il est satisfait à la justice divine. Note. On aurait tort de considérer l'hypothèse pour qui tous les maux de ce monde en général jouent le rôle de châtiment, frappant les transgressions commises, comme forgés en vue d'une théodicée ou comme une invention faite pour les besoins de la religion des prêtres, car elle est trop commune pour qu'on y voie une conception si habile. Tout fait présumer, au contraire, qu'elle tient de très près à la raison humaine qui est portée à rattacher le cours de la nature aux lois de la moralité et qui, tout naturellement, en déduit la pensée que nous devons d'abord chercher à nous rendre meilleurs, avant de pouvoir désirer d'être délivrés des maux de la vie ou de leur trouver des compensations dans un bonheur qui les dépasse. De là vient que le premier homme, dans l'Écriture sainte, est représenté comme condamné à travailler pour vivre, sa femme à enfanter dans la douleur, et tous deux à mourir à cause de leurs transgressions. Bien qu'il ne soit pas possible de voir comment, si cette transgression n'eût pas été commise, des créatures organisées pour la vie animale et pourvues des membres que nous voyons, auraient bien pu s'attendre à une autre destination. Chez les hindous, les hommes ne sont pas autre chose que des esprits, nommés devas, emprisonnés dans des corps animaux en punition de leurs anciennes fautes. Et même un philosophe, Malebranche, aimait mieux refuser une âme aux bêtes privées de raison et les dépouiller ainsi de tout sentiment que d'admettre que les chevaux dussent endurer tant de maux, sans avoir pourtant brouté du foin défendu. Fin de la note.